façon de penser à toi.
Couper les téléphones.
C'est fait.
Je crois que j'ai fait.
Alors, ma voix, comment elle est là?
Autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Drôme Ardèche. Aujourd'hui, nous allons avoir comme invité la CGT et la Ligue des droits de l'homme pour parler de l'état d'urgence, en particulier suite aux mesures qui ont été prises contre notre organisation Stop Nucléaire Drôme Ardèche lors des manifestations de la COP21. Mais avant cela, je vais donner la parole à Georges, notre billettiste japonais. Il a les yeux qui tout progressivement deviennent japonais et qui va nous parler de Fukushima. Vas-y, Georges.
Toujours tout pétillant avec Fukushima, bien sûr. Et le problème de Fukushima, chers auditeurs et auditrices, c'est qu'il faut le nettoyer maintenant pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, ce sont des informations de Fukushima Blog, toujours d'après Pierre Fété. Et Tokyo va accueillir ces Jeux Olympiques en 2020. Mais voilà, il y a eu Fukushima en 2011. Le gros problème, est-ce que le public international et les sportifs vont accepter de se déplacer dans un pays radioactif? Et donc, que faire pour nettoyer efficacement quand tous les systèmes de décontamination possibles ne marchent pas? Il n'y a qu'une seule solution en fait, le déni officiel, avec martèlement massif que tout va bien. Le gouvernement japonais, main dans la main avec le village nucléaire et les médias adoubés, propose un retour à la normale. Le gouvernement a donc décidé de supprimer les aides au logement des familles évacuées. En 2018, hop, tout le monde doit rentrer à la maison. Est-ce que c'est moins radioactif qu'en 2011? Certes, ça l'est un peu moins grâce à la décroissance radioactive, à la carchérisation et au raclage des sols, mais ces saletés de microparticules radioactives reviennent sans cesse avec le vent et la pluie. Qu'à cela ne tienne, il suffit de décréter qu'en dessous de 20 millisieverts par an, il n'y a pas de problème sanitaire et c'est bon. Tant pis pour ceux qui veulent revenir. Tant pis pour ceux qui seront obligés de revenir, enfants ou pas. Si on tombe malade bien après les Jeux Olympiques, on pourra toujours trouver une solution pour expliquer l'augmentation des maladies, le stress, la radiophobie, le réchauffement climatique, les pesticides, etc. On va aider la population à ne plus stresser en arrêtant progressivement de l'informer. Dans un premier temps, on avait posé des milliers de bornes de mesure de la radioactivité dans la préfecture de Fukushima. On avait fait beaucoup d'efforts pour baisser l'affichage des mesures publiques en faussant l'étalonnage et en prenant soin de bien nettoyer chaque jour l'appareil. Mais il y a des petits malins, est-ce les mêmes, qui s'amusent à comparer les chiffres avec ceux de leur propre appareillage. Non, tout ça c'est fini. À partir d'avril 2017, on démontra 2500 bornes de surveillance sur les 3600, soit 70%, même celles des écoles. Trop c'est trop, il faut lutter contre la radiophobie. Ah, si seulement on pouvait interdire les radiomètres. Les gens réfléchissent trop. Le mieux est qu'ils acceptent une fois pour toutes d'être des victimes et ils vivront mieux. Quelle joie de reconstruire Fukushima si on oublie les radionucléides. Si vous n'en êtes pas convaincu, le programme Letos, déjà évoqué, est fait pour vous. Inventé pour les populations vivant en territoire contaminé près de Tchernobyl, il a été repris pour Fukushima. D'autre part, après avoir décrété l'arrêt à froid en décembre 2011, TEPCO décrète l'arrêt de la prise en compte du risque radioactif en 2016. Le niveau de radioactivité au sol étant aujourd'hui inférieur à 5 millisieverts par an, sur 90% du site nucléaire. Le règlement va changer de façon à ce que les ouvriers n'aient plus forcément à mettre d'habits de protection ni de gants. Pourquoi ce principe de non-précaution? Tout simplement pour donner l'illusion que le problème se limite au réacteur. D'ailleurs, le mur de glace souterrain qui entourera les 4 réacteurs en détresse va, dit-on, isoler définitivement les coriums de l'environnement. Les ouvriers ne seront plus ennuyés par tous ces vêtements de protection inutiles qu'il est ensuite difficile d'éliminer sans créer de nouveaux déchets radioactifs. Et surtout, les sportifs et leurs supporters seront rassurés. Ensuite, que faire des 10 millions de sacs de produits contaminés, les déchets radioactifs, répartis sur plus de 100 000 sites? Le gouvernement a beau promettre aux propriétaires de terrain que ces sacs seront enlevés dans 30 ans, personne n'y croit. En attendant, les sacs s'entassent. Les plus anciens commencent à s'abîmer, certains sont emportés par des inondations. On ne sait plus où les mettre. On ne peut pas empêcher la végétation de s'y installer, on ne peut pas empêcher les enfants de jouer avec, on ne peut pas arrêter la détérioration du plastique. Pour que ces déchets ne fassent pas d'ombre aux Jeux Olympiques, le gouvernement devra imposer un site de stockage avant 2020. Est-ce grave pour la démocratie ? En conclusion, les autorités feront tout pour cacher la vérité sur les risques. Il y a déjà 116 cancers de la thyroïde. Afin que les Jeux Olympiques se passent bien, en 2020, le réacteur numéro 3 aura reçu sa superstructure flamboyante. Et d'après Shinzo Abe, les enfants sous le ciel bleu de Fukushima joueront au ballon en regardant vers l'avenir.
Eh bien, c'est un beau petit message d'avenir que tu nous donnes. Eh bien, je te remercie, Georges, pour ce billet. On t'aura une petite info à donner tout à l'heure dans les agendas.
Oui, je te remercie.
Je t'en prie. Annie, toi, tu veux nous parler ?
Moi, je voudrais bien vous parler des fuites et du nucléaire. Alors évidemment,
c'est un peu en réponse à notre ministre.
Un petit peu, voilà, même beaucoup. Donc les fuites, les nucléaires, ce sont deux mots presque pléonasmes quand on parle de ceci. Alors il y a les fuites radioactives que nous craignons tant et qu'on nous cache bien souvent. À ce sujet d'ailleurs, les Allemands semblent bien mieux informés que nous sur l'état de fonctionnement de Fessenheim. Et Genève veut la fermeture de la centrale du Bugey. On devrait se poser quelques questions. Et puis il y a toutes ces autres fuites, des fuites en avant. La première, ce matin même, on entend que le directeur financier d'EDF s'enfuit en voyant le désastre financier qui se prépare avec les accords franco-britanniques sur l'EPR anglais. Deuxième exemple, le mois dernier, je vous parlais d'un centre d'enfouissement de Cigéo, dont le coût ne fait que s'envoler. Eh bien, pour arrêter cette fuite en avant du coût, la ministre de l'écologie vient de le bloquer à 25 milliards d'euros par décret. Alors même que l'autorité de sûreté nucléaire juge que les 34 milliards et demi avancés sont insuffisants, 25, ça devrait être encore moins suffisant. Merci en tout cas aux 5 associations qui attaquent cet arrêté devant le Conseil d'État. Les exemples de fuite en avant ne manquent pas, hélas, pour enflouer EDF, qui dévisse en bourse, et pour sauver le pseudo-fleuron Areva, qui accuse 7 milliards de pertes, licencie et continue à sombrer. Mais je suis là aujourd'hui pour vous parler de la dernière fuite en avant de Ségolène Royal. Ainsi, dimanche dernier, la ministre de l'écologie a dit, je cite, elle s'est dite, je cite, « prête à donner le feu vert au prolongement de 10 ans de la durée de vie des centrales nucléaires en France. Cette prolongation doit permettre de produire une électricité moins onéreuse par des équipements déjà amortis. »
Des équipements qui sont vraiment déjà amortis ?
On se pose des questions. On parle bien de réacteurs nucléaires, ceux-là même qui étaient prévus pour 30 ans, puis 40 et maintenant 60 ans, amortis, mais pourtant on doit bien les rénover. Le fameux grand carénage ne prévoit-il pas un budget d'au moins 1,7 milliard d'euros par réacteur, ce qui portera le coût du mégawattheure entre 63 et 70 euros. Ah, que de chiffres. Et dire qu'on n'a pas encore calculé avec précision le coût du démantèlement qui sera incontournable un jour ou l'autre. Mais malgré une rénovation, nous savons tous que des pièces sont impossibles à changer dans un réacteur. Alors, confiance, tout va bien, car le prolongement de la durée de vie d'une centrale sera conditionné à l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire, notre gendarme du nucléaire. Mais voilà, cette semaine aussi, le directeur de l'ASN ne nous a pas rassurés du tout, et je vous invite à lire ses propos, où il dénonce le manque de moyens de l'ASN et la probabilité d'un accident en France. Tout ne peut pas être étudié dans les délais nécessaires. Comment peut-on laisser dépérir les moyens de l'ASN alors que les drames de Tchernobyl et de Fukushima sont encore d'actualité 30 ans ou 5 ans plus tard ? La sécurité ne doit pas être au rabais. Elle est pour nous essentielle et il y en a assez de ces arrangements financiers pour nous faire croire encore au mythe du passé. Prolonger la durée de vie des centrales, pour nous, se résume en 4 points. C'est, premièrement, dangereux pour la santé et la sécurité des Européens. Deuxièmement, incompatible avec la transition énergétique. Troisièmement, aberrant économiquement avec des investissements et des coûts qui explosent. Et c'est aussi 100 milliards d'euros de coûts de maintenance supplémentaires selon la Cour des comptes. Le réalisme économique, c'est vraiment tourner la page du nucléaire coûteux et dangereux. Et puisque l'actualité nous interpelle sur le droit du travail, je terminerai par un exercice peut-être un peu périlleux à la radio. Je voudrais vous partager un dessin humoristique, mais tellement éclairant, de Cyril K. Vous imaginez une éolienne toute neuve qui discute avec une centrale nucléaire fripée, fissurée, la canne à la main. « Alors, mamie, toujours pas à la retraite ?»« Ben non, mon gamin, j'en ai repris pour 10 ans. Et toi, toujours pas de boulot ?»
Annick vient de nous faire un dessin sur la radio, faut le faire quand même. Eh bien, en parlant d'éolienne, Dominica.
Regarde les éoliennes, mon amour, comme elles sont belles. Comme le ciel est changeant et le vent impatient de jouer dans tes cheveux et de faire plisser tes yeux pour goûter un instant au bonheur en passant. Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas une seconde. Le vent est si fort, il voudrait bien t'avoir pour lui seul, t'emmener loin. Peut-être son souffle est-il plus doux que mes mots d'amour, mes yeux de fou. Peut-être aimerais-tu tourbillonner sous son aile sans moi. Pour t'agripper, tu vois, je suis jaloux de tout. Jusqu'au vent qui t'effleure, jusqu'au vent qui t'effleure. Regarde les éoliennes, et comme le vent les entraîne, à elle-même faire le vent, insistant que tu sens. Jouer encore dans tes cheveux et refaire plisser tes yeux et goûter un instant au bonheur en passant. Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas une seconde. Le vent est si fort, il voudrait bien t'avoir pour lui seul, t'emmener loin.
Eh bien, vous êtes toujours sur Radio Méga et sur Atomic Mac. À la suite des attentats de novembre 2015, le gouvernement a promulgué l'état d'urgence. Rappelons que cette loi permettait au gouvernement de mettre en place un état d'exception et qu'elle a été votée au début de la guerre d'Algérie. Nous avons invité aujourd'hui... Alors, Richard Pernaud, secrétaire général de l'UDCGT 26 de la Drôme, et Françoise Battesti, présidente de la Ligue des droits de l'homme et de la Fédération de la Drôme et de la section de la Drôme, pour faire le point justement sur cette loi sur l'état d'urgence. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle dans une émission en principe anti-nucléaire? C'est qu'un de nos militants est convoqué au tribunal le 24 mars, suite aux manifestations sur la COP21, et s'applique justement les premières conséquences de cette loi sur l'état d'urgence. Alors, Françoise Battesti, sur la Ligue des droits de l'homme, quelle est votre démarche? Quelle analyse vous faites-vous déjà de cette loi sur l'état d'urgence et la démarche de la Ligue des droits de l'homme par rapport à cette loi d'exception?
On peut penser qu'au début, c'était normal, juste après les attentats, mais on voit que ça se prolonge et que ça se renouvelle, et donc on voit déjà des conséquences d'arrestations
arbitraire,
merci. Et donc, on est absolument contre cette prolongation qui nous semble absolument inutile. Et justement, qui pose des problèmes sur la liberté des citoyens et qui a des conséquences liberticides.
D'accord. Et ben, justement... par rapport à cette loi sur l'attitude de la Ligue des droits de l'homme, on pourrait s'étonner que, on ne s'étonne pas que la Ligue des droits de l'homme vitement réagit sur l'état d'urgence en lui-même, mais finalement pour beaucoup de personnes, cette loi, elle était un peu la continuité des lois existantes, ou est-ce qu'il y a vraiment une différence de votre point de vue ?
Oui, absolument. On pense de toute façon que l'état d'urgence n'est plus nécessaire. Le maintien de l'état d'urgence n'est plus nécessaire.
C'est le maintien de l'état d'urgence.
Absolument. On est contre le maintien on est contre la prolongation de cette situation d'exception. Et
d'accord.
On pense que la sécurité en France peut se faire sans cette loi d'exception.
Alors, Richard Pernaud, vous avez beaucoup travaillé à la CGT sur cette loi sur l'état d'urgence. Et première question, je disais que c'est une loi qui est issue de la guerre d'Algérie. Est-ce qu'on peut considérer déjà qu'il y avait nécessité de mettre cette loi d'état d'urgence ? Est-ce que les lois existantes ne pouvaient pas suffire ?
Alors, pour nous, clairement, il n'y avait aucune nécessité à mettre en place la loi sur l'état d'urgence. On pouvait, à la limite, tolérer les 10 jours qui ont suivi les attentats de manière à pouvoir appréhender les responsables, mais clairement, cette loi n'avait aucune légitimité et aucune légitimité de la façon dont elle a été rédigée. C'est-à-dire que il y a des lois antiterroristes qui définissent au sein du code pénal 6 articles, qui définissent ce qu'est un terroriste, quelles sont les personnes qui sont associées au mouvement terroriste, y compris au niveau du financement, de la propagande. Enfin, les 6 articles sont assez exhaustifs sur le sujet. Et dans la loi sur l'état d'urgence, curieusement, on ne fait quasiment pas référence au mouvement terroriste, sauf pour le dernier article sur l'apologie de terrorisme. La plupart du temps, on parle de personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils peuvent troubler l'ordre public. Donc clairement, cette loi ne s'adresse pas aux terroristes, sinon ça aurait été marqué, puisque à la fin de la loi, on sait aller faire référence aux actes terroristes. Dans tout le reste de la loi, on s'adresse à des personnes, monsieur tout le monde, puisque des personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles peuvent troubler l'ordre public, ça peut être n'importe qui. Surtout que les personnes qui font ça, ce sont des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui agissent sur renseignement et qui globalement peuvent très bien avoir des renseignements erronés, ce qu'on voit dans les cas des dénonciations qu'on voit notamment puisque le site du Monde a notamment un blog sur ce sujet-là. Et clairement, on s'aperçoit qu'en termes de répression, les personnes qui ont été réprimées, ce ne sont pas des terroristes.
Oui, on l'a vu avec l'arrestation de militants, notamment lors de la COP21, et puis les problèmes qui se posent pour Stop Nucléaire d'Omar Desch, notamment aussi. Mais concrètement, pourquoi avoir fait cette loi sur l'état d'urgence alors que des lois manifestement existaient auparavant ? Qu'est-ce qu'il y a de plus, et notamment en matière juridique ? Qu'est-ce que ça leur permet de plus, en fait, cette loi sur l'état d'urgence ?
Alors, la loi sur l'état d'urgence, elle permet déjà d'assigner à résidence des personnes sous la seule autorité administrative. Ça permet de s'affranchir du juge judiciaire et du juge d'instruction pour les procédures de perquisition. Ça, c'est la deuxième chose. Ça permet de contrôler les lieux dont on pense qu'ils vont troubler l'ordre public. Hein. On ne parle pas de lieux qui peuvent abriter des djihadistes, mais qui troublent l'ordre public. Ça permet d'interdire les manifestations sans aucune raison. Et puis, en termes syndical, il y a un article qui est l'article 10 de la loi, qui est un article sur les réquisitions, alors qui est bien camouflé parce qu'il renvoie vers le code de la défense. Mais globalement, si on lit à la fois la loi sur l'état d'urgence et le code de la défense, on voit que ça autorise le préfet ou l'autorité administrative a réquisitionné n'importe quelle personne sur le territoire français sans aucune raison, et donc de casser n'importe quel mouvement de grève.
Oui, ce qui veut dire que, par exemple, là, on a des mouvements sociaux qui se développent autour du code du travail. On pourrait considérer qu'il y a un danger pour l'ordre public parce que des manifestations, y compris interdire, donc, dans ces cas-là, les mouvements de grève.
Sans parler d'ordre public, ça parle, les réquisitions ne parlent pas de l'ordre public, c'est les nécessités de l'État. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 2010, sauf que c'était illégal. En 2010, il y a eu une grosse grève sur les retraites et les raffineries étaient bloquées. Et ce qu'avaient fait les préfets, c'est qu'ils avaient réquisitionné les personnels des raffineries, mais comme c'était illégal, ils étaient un petit peu embêtés. Alors ils faisaient ça le soir à 17h, pour le lendemain matin à 7h, pour empêcher le tribunal de se prononcer. Ben là, il n'y a même plus besoin d'aller voir le tribunal, en fait. Voilà. Et ouais. Nous, ça nous pose vraiment question, parce que il y a une hypocrisie totale dans cette loi qui est présentée comme luttant contre le terrorisme. On voit que le résultat, c'est quoi? C'est 23 condamnations pour apologie de crimes terroristes et rien du tout à côté. Et à côté de ça, il y a des dispositions qui nient le droit de grève, qui nient le droit de manifester, qui nient le droit d'avoir des idées politiques sur des sujets sensibles, avec un fractionnement de la population, parce qu'on n'attaque pas toute la population. On attaque un coup les militants de la COP21, après on va attaquer France-Palestine. Maintenant, si les mouvements sociaux augmentent, on pourrait très bien attaquer les forces syndicales. On les attaque de manière détournée, puisque ça va être des militants isolés qui vont être attaqués sur leur lieu de travail. On peut penser à un camarade de l'Isère qui est délégué syndical chez McDo et qui a été mis en garde à vue parce qu'il n'avait pas de carte d'identité alors qu'il était en visite sur le site. Voilà.
Oui, voilà. Mais alors, il y a une inquiétude qu'on peut avoir, finalement, c'est que cet état d'urgence qui avait été promulgué pour quelques jours, qui a été reconduite, qui est de nouveau reconduite, le président voulait même inscrire des dispositions dans la Constitution. Est-ce que, finalement, il n'y a pas un risque de tentation à ce que cet état d'urgence devienne l'état permanent, finalement?
C'est clairement le risque, ce d'autant qu'après la fin de la prolongation, il y a la Coupe d'Europe, et que, par conséquent, on peut très bien imaginer une nouvelle prolongation, et surtout, il y a un gros danger pour la démocratie qui est qu'on cumule de plus en plus les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires aux mains du seul exécutif, puisque le seul contrôle par rapport aux dispositions de l'état d'urgence, c'est le juge administratif et non plus le juge judiciaire qui peut les mener. Et qu'on rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit qu'un État qui n'assure pas, alors je ne me rappelle plus la formulation exacte, mais un État qui n'assure pas la séparation des pouvoirs n'a plus de constitution.
Voilà. Juste avant de passer à notre chanson, petite question d'un point de vue juridique, parce que les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est que pénal, etc., et administratif. Là, les juges non plus, les juges qui sont en théorie indépendants n'interviennent plus du tout pendant l'état d'urgence. Quoi.
Si ce sont des juges qui sont indépendants, sauf que c'est la juridiction administrative
qui est quand même moins indépendante.
Qui est moins indépendante, mais surtout qui n'est pas du tout au fait des libertés. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'assignations à résidence qui ont été maintenues. Ça commence petit à petit à se calmer, parce que petit à petit, ils s'y mettent. Mais le problème, c'est que c'était une prérogative du juge judiciaire. Et le juge administratif n'est pas du tout formé pour ça. Et les procédures qui sont des procédures écrites ne sont pas du tout adaptées à ce type de contrôle. Oui.
Eh bien, on va leur envoyer à tous un peu de moustaki, justement, pour les calmer.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, ça reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie.
terre, un bâton, c'est Joseph et c'est Jacques. Un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond. Par et peine, et on fin de camin, et on reste dit toc, et on poque sozine, par une pierre, chemin qui chemine.
Vous êtes toujours sur Atomic Mac. Nous sommes avec Richard Perrenot, de la secrétaire de l'UDCGT 26, et Françoise Battesti, de la Ligue des droits de l'homme. On parle de l'état d'urgence. Et alors, Françoise, les résistances, il y a quand même des résistances par rapport à cet état d'urgence. On a vu les juges réagir, etc., y compris le défenseur des droits de l'homme.
Qui est M. Jacques Toubon. Je ne crois pas qu'il soit de gauche. Je ne crois pas qu'il soit
a priori
gauche,
non.
M. Jacques Toubon, mais il est absolument, il a fait un rapport assez épais sur l'état d'urgence, donc qui a été voté le 20 novembre et qui a été prorogé. Et il y a une deuxième prorogation qui est adoptée le 16 février par le Parlement et qui doit se terminer le 26 mai. Mais le 26 mai, c'est juste avant l'ouverture de l'Euro 2016 de foot. Donc, on peut se demander.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la tentation de proroger encore.
Proroger, mais après, il y aura d'autres événements, etc. Et M. Toubon aussi signale qu'il y a eu plus de 3000 perquisitions administratives et que, en fait, il y a eu 34 perquisitions contestées et 23 qui n'ont eu aucune suite. Donc c'est quand même des abus
de pouvoir.
Et puis des résultats qui sont finalement minces par rapport à une loi d'exception de ce niveau-là, quoi.
Et disons que il ne faut pas non plus penser simplement à l'état d'urgence qu'on veut qu'il soit abrogé, mais il faut penser à une réforme, à la réforme pénale qui se prépare et qui aussi va nous annoncer beaucoup de lois liberticides, voilà. Et donc dans cette réforme, dans ce projet de loi, il y aurait les pleins pouvoirs donnés au procureur.
Oui, c'est ce qu'annonçait le journal Le Monde il y a quelques jours.
Qui n'est pas vraiment libre et indépendant.
Et qui aujourd'hui, d'ailleurs, le détenteur, un petit peu, c'est lui qui fonctionne avec l'état d'urgence. C'est le procureur qui prend quasiment toutes les décisions aujourd'hui. En fait, même s'il n'y a plus l'état d'urgence, le nouveau projet de loi vise à introduire la place du procureur, quoi. Je rappelle que les procureurs, c'est ceux qu'on envoyait en hélicoptère pour aller prévenir un ministre pour qu'il revienne tout de suite pour éviter l'arrestation d'un patron.
On peut parler de M. Courroy aussi.
Voilà, tout à fait. Pour la CGT, localement, tu en as parlé tout à l'heure, il y a les risques pour les salariés réels, pour les luttes sociales, etc. Sur la Drôme, et puis nationalement, donc il y a une manifestation qui est prévue le 12.
Alors, effectivement, au départ, ça devait être le 10, mais vu l'actualité, on va se raccrocher sur la manifestation du 12, qui est une manifestation nationale proposée par les 150 associations signataires de l'appel de « Nous céderons pas ». Et donc, nous, sur la Drôme, il y a eu une première manifestation le 30 janvier, et on s'est dit qu'on allait se coordonner un peu mieux. Donc, on s'est retrouvés, et on est à peu près 16 signataires d'un appel commun qui comprend des partis politiques en plus des associations. Donc il y a un fonds d'association, la Ligue des droits de l'homme, le MRAP, ASTI, Association France-Palestine, Solidarité. Il y a des partis politiques, donc qui sont les partis progressistes, hein, Europe Écologie, le NPA, le PC et le Parti de Gauche. Et il y a des centrales syndicales, donc il y a des militants de Sud, des militants de la FSU et donc la CGT. Voilà, et donc nous, notre projet, c'est qu'il y ait un maximum de personnes et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se rendent compte de ce qu'est réellement l'état d'urgence, c'est-à-dire une loi de masse, de musellement des populations, quand ça arrange le pouvoir, Donc ça nous semble important que les gens disent non, on est dans une démocratie. Et c'est vrai que la réforme pénale dont vient parler Françoise est très importante, parce qu'on passe d'un juge d'instruction indépendant à un procureur qui est sous les ordres directs du ministre de la Justice, donc de l'exécutif. On se retrouve donc en France avec la possibilité que l'exécutif détienne les trois pouvoirs. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure.
Oui, on a profité en fait d'une situation d'attentat pour faire passer des lois qui pourraient servir d'ailleurs demain à d'autres gens encore plus mal intentionnés si on n'y prend pas garde.
Ils en rêvaient, ils ont fait le Patriot Act, hein. Ils sont en train de le faire tranquillement et ils se servent de la peur pour ça.
Alors, le 12, il y aura quelque chose sur Valence ?
Oui, alors le 12 sur Valence, il y a un rassemblement Place de la Liberté à 14h.
Rassemblement Place de la Liberté, d'accord.
Voilà.
Et puis, alors, un militant de Stop Nucléaire passe au tribunal. Alors, c'est un rappel à la loi, hein, oui, qui est fait seulement. Ils ont voulu éviter justement qu'il y ait des procès un peu par derrière. On fait seulement un simple. Mais c'est quand même des temps.
C'est l'intimidation.
Voilà, c'est l'intimidation. Et c'est aussi un autre aspect de cette loi, c'est qu'il ne suffit pas quelquefois de condamner, il suffit aussi souvent de vouloir faire peur. Et on l'a vu là, on essaie d'intimider, d'amener les gens. Qu'est-ce qui est prévu pour le passage du 24
pareil,
mars ?
Pareil, donc le 24 mars à 10h30, hein, de mémoire, voilà. On prévoit aussi un rassemblement afin, en soutien aux militants, parce qu'effectivement, après, quelles que soient les idées des uns et des autres, il est important que chacun puisse s'exprimer. On attribue à Voltaire des propos qu'il n'aurait pas tenu, mais qui est « quoi que vous pensiez, je me battrai pour que vous puissiez le dire, même si je ne suis pas d'accord avec vous ». Alors même s'ils ne sont pas de Voltaire, je trouve que ces propos sont vraiment très intéressants et que c'est le fondement même d'une démocratie de pouvoir débattre.
Oui, on voit, c'est l'ensemble du mouvement associatif qui est touché, quelles que soient les positions qui sont défendues par les uns et les autres. Effectivement, c'est tout le monde risque. Françoise.
Donc je précise que c'est à 10h30 devant le tribunal. Le jeudi 24,
jeudi 24,
devant le tribunal. Et je voudrais quand même dire, puisque Dominique parle d'association, c'est plus que ça. C'est des citoyens dans les associations, dans les syndicats et dans les partis. Parce que à la première, au premier rassemblement que nous avons fait le samedi 30 janvier, il y avait donc beaucoup déjà d'associations, d'organisations politiques et de syndicats, mais il y a beaucoup de personnes présentes qui ont dit « nous sommes là en tant que citoyens ». Ça veut dire que les citoyens se réveillent, et donc c'est ce qu'on souhaite, en mobilisant le plus de personnes possible.
Voilà. Un petit mot pour la CGT, il y a un problème d'urgence sociale, on en parle beaucoup pour l'instant. Vous en êtes où aujourd'hui ?
Alors, malheureusement, quand on suit le gouvernement, on n'en est pas très loin, puisque la loi El Khomri est un recul sans précédent du droit du travail. Et effectivement, l'urgence sociale, elle se fait jour quand on la regarde sous l'angle de l'état d'urgence. Parce que plutôt que de mettre des policiers, il faudrait peut-être mettre des éducateurs dans les quartiers. Il faudrait peut-être d'avoir de vraies réponses de société à proposer aux gens. C'est bien beau, hein, de faire une déchéance de nationalité et de dire aux personnes qui commettent ces massacres, vous appartenez plus à la société française. Mais c'est quand même la société française qui les a élevés. Et c'est quand même la société française qui est responsable de la détresse dans laquelle ils ont été plongés et qui les a conduits à la haine, parce qu'il faut une haine absolue pour arriver à tuer des gens de sang-froid. Et ça, c'est juste inadmissible. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut relancer l'économie par la politique de l'offre, par des augmentations de salaire, par le nouveau statut du travailleur salarié. C'est le seul moyen de relancer l'économie. Les autres méthodes qui ont été utilisées, on voit très bien qu'elles sont totalement inefficaces. Et c'est en utilisant ces moyens-là et en redonnant du pouvoir d'achat et en redonnant des moyens aux personnes qu'on les détournera de la désespérance. Voilà.
La désespérance qui, y compris, existe dans le mouvement ouvrier, s'exprime pas avec des fusils et des kalachnikovs, mais c'est souvent exprimé par soit des actes de violence, soit par des suicides et des répressions contre soi-même qu'on connaît bien. Françoise, pour conclure ?
Oui, on est en fait plus dans une politique de répression que dans une politique de prévention.
C'est un petit peu ce qu'on voulait signaler par cette émission. Et, écoutez, on vous remercie beaucoup d'être venu. C'est toujours trop court, on aimerait bien pouvoir redévelopper avec vous, mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir dans cette émission pour notamment, c'est un appel du pied, mais pour discuter des licenciements qui sont très importants chez Areva dans notre département, dans Bois-Ardèche, sur les trois centrales nucléaires. Et nous, si on est contre le nucléaire, on s'intéresse aussi à la situation des salariés qui y travaillent, y compris leur situation sociale et leurs conditions de travail et leur travail maintenant. Voilà. Donc on lance l'invitation.
Volontiers.
Voilà. Et bien maintenant, on va passer à notre billettiste qui va nous dire le faux et le vrai. Jeanne.
Donc, je vais revenir un petit peu sur tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le nucléaire, on nous parle souvent du nucléaire qui est bon marché et du nucléaire qui est sûr. C'est ce qu'on nous a répété en boucle, l'EDF et les gouvernements successifs. Alors la première affirmation, le nucléaire est bon marché, a commencé à se fissurer quand la Cour des comptes a réalisé une étude en 2011 sur les réels coûts de l'électricité nucléaire. Cette étude est assortie de nombreuses réserves, comme par exemple le choix d'EDF et d'Areva de minimiser souvent leurs coûts prévisionnels et de les relever ensuite quand la réalité ne peut plus être cachée. C'est le cas de l'EPR qui devait coûter environ 3 milliards et qui en coûtera 10 ou plus. La Cour nous invite donc à prendre le chiffrage auquel elle aboutit avec des pincettes, 49,5 euros par mégawattheure pour les centrales en service actuellement. Ce rapport a été actualisé depuis et le coût de production est passé à 59,80 euros par mégawattheure année 2013. Le coût réel n'est pas destiné à calculer le tarif à appliquer à un moment donné.
Alors pourquoi le coût ne correspond pas au tarif appliqué par EDF ?
Alors la Cour, elle a pris en compte tous les coûts, y compris les masqués, comme la recherche publique qui ne figure pas dans les comptes d'Areva et d'EDF. C'est une approche qui permet de comparer les énergies. Depuis 2010, EDF doit vendre sa production aux fournisseurs d'électricité à un tarif régulé, fixé par arrêté ministériel après avis consultatif de la Commission de la régulation de l'énergie. Ce tarif est supposé couvrir le coût du nucléaire, c'est 42 euros par mégawattheure, et doit garantir aux nouveaux acteurs du marché de l'énergie le même avantage compétitif que l'opérateur historique. Mais depuis fin 2014, le prix du marché de gros, sous l'effet de la baisse des prix du charbon puis du pétrole, est inférieur à celui d'EDF. Du coup, les volumes vendus se sont effondrés. Baisse de 65% les premiers semestres 2014 et 2015. Désastre pour EDF. Et la situation est d'autant plus dramatique que les coûts de production vont augmenter. Puisque, comme vous l'a dit Annie, EDF prévoit 55 milliards d'euros pour prolonger les centrales. Mais la Cour des comptes dit non, ça sera 100 milliards.
Et alors, on va très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, les difficultés économiques, est-ce qu'elles vont miner vraiment la sûreté de ces réacteurs ? Parce qu'on parle beaucoup des difficultés économiques d'EDF aujourd'hui.
Oui, oui. Eh bien, écoutez, il y a 41 réacteurs nucléaires qui vont atteindre leur 40e année dans les 10 ans qui viennent, durée que l'exploitant ne comptait pas dépasser au départ. La quatrième visite décennale nécessitera 4 fois plus de travaux à faire, c'est une charge énorme. C'est très au-delà de la capacité d'EDF, d'autant plus que la crise d'Areva alourdit encore plus ses difficultés. D'un côté, l'ASN promet son extrême vigilance. De l'autre, EDF assure de son absolu respect des règles de sécurité. Mais la réalité est moins glorieuse. Les graves anomalies sur la cuve et le couvercle de l'EPR de Flamanville n'ont été détectées que grâce au contrôle de l'ASN. Areva n'a pas repéré ou a caché les graves défauts de son produit et EDF a démarré le montage avant la fin des essais de qualification. L'ASN travaille par sondage et ne peut être derrière chaque geste. Plus les difficultés d'EDF s'aggraveront, moins les conditions de garantie de sûreté seront réunies.
Et rappelons ce que disait Annie tout à l'heure, le directeur financier d'EDF est en train de partir et voilà. c'est mal parti pour cette entreprise. On va passer à notre agenda parce que nous sommes un petit peu en retard.
J'ai pas pu mettre mon dessin.
Tu n'as pas pu mettre ton dessin, mais tu voulais faire un concours de dessin aussi, on le garde pour la prochaine fois. Annie, tu nous fais notre petit agenda ?
Oui. Alors, un agenda un peu chargé en ce mois de mars, donc il va falloir être vraiment présent. Vendredi 11 mars, donc un anniversaire, et, oui, qui est maintenant 5 ans.
Une commémoration,
ans.
On va dire
la
plutôt.
La commémoration, oui, de la catastrophe de Fukushima qui a commencé il y a 5 ans. Donc, on vous propose de vous retrouver à 11h30 pour le dépôt d'une plaque commémorative à Saint-Marcel-les-Valences. Cette plaque est déposée par le groupe Europe Écologie Les Verts. Et elle est déposée à côté de celle dédiée à Tchernobyl. Le vendredi 11 mars à 19h, soirée exceptionnelle organisée par la CRIRAD, la population japonaise face aux impacts de l'atome. Donc nous vous invitons, puisque Bruno Chariron et Roland Desbordes animeront la soirée en présence de Wataru Iwata, qui est fondateur du CRMS et qui vient en France apporter son témoignage. Allez sur le site de la CRIRAD, vous aurez tous ces renseignements, puisque la soirée sera diffusée en direct aussi sur le web. Samedi 19 mars à 14h à la Maison des Sociétés, salle 30 à Valence, c'est l'Assemblée Générale de Stop Nucléaire 2607 et on appréciera le passage du film At Home en présence de la réalisatrice Elisabeth Levray. Samedi 19 mars aussi, au Cause Toujours, il y a le Bal des Utopies toute la journée. Et le jeudi 24 mars, on en a déjà parlé, à 11h, Dominique, militant de Stop Nucléaire, est convoqué au tribunal pour un rappel à la loi sur l'état d'urgence. Donc un rassemblement est organisé à partir de 10h30 devant le tribunal. Et puis le samedi 26 mars, action Pont de Lyon à Avignon, allez là aussi sur le site de la chaîne humaine.
Et ben voilà, nous allons finir avec un petit fond de chansons atomiques de Boris Vian. Et non, on ne va plus avoir le temps du tout. Bon. Je rappelle seulement qu'il y avait Georges, il y avait Annie, il y avait Jeanne, il y avait Dominique, et j'avais Jean-Pierre. Et il y avait Jean-Pierre à la technique. Et puis, bah, nous laissons la place aux émissions suivantes de Radio Méga. Au revoir à tous.